un podcast France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
C'était une soirée de printemps il y a 2 ans. J'ai tout de suite remarqué que le chauffeur du VTC avait l'accent iranien, reconnaissable entre tous pour les amoureux du pays de Hafez. Nous avons donc commencé une conversation joyeuse où nous avons dit du mal de la République islamique, mais aussi des Américains, et âprement comparé les mérites respectifs du Jujé Kabob, les brochettes de poulet au safran, et du Rolmé Sabzi, le veau aux herbes. C'est alors que le chauffeur a marqué un temps et m'a dit « Mais en fait, vous n'êtes pas si désagréable ?» Je n'ai pas bien saisi, comment ça désagréable ? Avec la note que vous avez, j'ai même failli ne pas vous prendre, m'a-t-il dit. C'est comme ça que j'ai compris, à mon grand dam, que les clients Uber étaient notés par les chauffeurs et que j'avais une note pourrie, un minable 3 sur 5. Je me suis alors souvenu d'un ou deux échanges un peu vifs avec des conducteurs rivés à leur GPS et j'ai compris. En bon élève humilié, je me suis par la suite tenu à carreau et j'ai surtout acheté un vélo. Je me suis rassurée aussi en me disant qu'on n'était pas encore en Chine. Dans certaines villes, en effet, ce sont les autorités qui ont mis en place des systèmes de points encourageant chacun à signaler les bonnes et les mauvaises actions des autres. Les citoyens qui ont des mauvaises notes sont fichés et affichés dans la rue sur des écrans géants avec leur photo d'identité, leur nom et leurs mauvaises notes. Annaëlle Verzo est moins optimiste que moi. C'est quand elle a découvert que son médecin de famille aussi était noté et qu'il n'avait pas exactement des bonnes notes qu'elle s'est décidée à enquêter sur le système de notation en France. Tout de suite dans Les Pieds sur Terre, son récit sous le joug des étoiles.
Samedi matin, j'ai dû prendre rendez-vous chez le médecin pour ma fille. Mais pas moyen de retrouver le numéro de mon docteur. Je tape sur Google, et juste au-dessus de son numéro, c'est là que je vois des petites étoiles. Vous savez, celles qui correspondent à une note entre 1 et 5. À ma grande surprise, je découvre que la sienne est mauvaise. Il n'a que 3 étoiles sur 5.
Incapable de poser un diagnostic, mais capable d'encaisser l'argent pour une consultation qui a duré moins de 2 minutes.
En regardant de plus près sur Google, je m'aperçois que tout le monde peut voir sa note.
Médecin antipathique.
Mais aussi le commentaire qui va avec.
Médecin extrêmement incompétent. Je suis ressortie de mon rendez-vous avec du Doliprane.
Je commence à lire les commentaires qui accompagnent ces notes. Et je n'en reviens pas.
Archi nul, mais très sûr de lui. Mon père a failli mourir à cause de sa négligence.
Il faut savoir que c'est mon médecin et celui de ma famille depuis des dizaines d'années.
Une faute professionnelle comme ça, ce n'est pas possible.
Je le connais depuis que je suis toute petite. Je l'aime beaucoup et je lui ai toujours fait confiance.
Vous à encaisser votre argent, mais pas à vous soigner, très décevant.
À première vue, c'est de la diffamation pure et simple. C'est vrai qu'il est un peu à l'ancienne, mon médecin, qu'il prescrit souvent du Doliprane et qu'il refuse de faire beaucoup d'arrêts de travail. Mais est-ce que ça suffit pour ce déchaînement ? Il y a des accusations très graves, carrément d'homicide. Je me décide alors à l'appeler pour lui demander timidement ce qu'il en pense. Il me dit que je lui apprends tout ça et qu'il ne regarde pas ces choses-là. J'insiste un peu pour qu'on en parle, mais il n'a pas très envie. Je crois qu'au fond, ça ne l'intéresse pas. Moi, ça me donne envie d'en savoir plus sur cette histoire d'étoiles. Je pense alors au docteur Jérôme Marty, qui s'exprime volontiers dans les médias.
La médecine n'est pas un commerce.
Je lui demande si ces notes ont vraiment un impact sur la profession et jusqu'où ça peut aller.
Dès l'instant où on commence à noter les médecins comme des hôtels ou des restaurants, c'est qu'on considère que la médecine est un bien qui s'achète comme un autre.
Jérôme Marty, est-ce que vous avez entendu parler de cabales qui ont pu avoir lieu, justement ?
Allez sur ma page Google, vous allez voir ce que c'est qu'une cabale.
Vous avez beaucoup d'avis négatifs ? Ah oui, je vois là, donc là on est en train de se connecter. Oui, c'est ça, on est en train de se connecter à Google.
Vous verrez.
Et on a tapé docteur Jérôme Marty, effectivement, vous avez 2,3 étoiles sur 5. Ouais. Ah oui, vous avez 72 avis, effectivement.
Oui. Si vous voulez, comme je fais partie des médecins un peu médiatisés, j'ai les gens qui se vengent de tout ce que je peux dire sur les antennes, sur ma fiche Google. Donc, c'est absolument pas des patients à moi, mais c'est des gens qui écrivent, et la plupart du temps, sous anonymat, et vous verrez les tombereaux d'insultes qu'il peut y avoir et les abominations qu'il peut y avoir sur ces pages Google. Alors, Moi, il se trouve que j'ai du cuir, donc ce genre de choses, je laisse faire. Je suis un peu habitué. Mais un médecin qui pourrait être fragilisé, vous allez avoir un médecin qui peut très bien être amené à déplaquer avec ce genre de choses ou à faire un geste malheureux. Dans la majorité des cas, ce sont des gens qui, en conscience, sont pas contents du service qu'ils ont reçu. Alors, ça parle rien. Vous pouvez très bien avoir quelqu'un qui va vous coller une mauvaise note parce qu'il a été mal assis dans la salle d'attente, parce qu'il y avait du bruit au moment où il était là, ou parce que le médecin n'a pas souri quand il est rentré dans la salle. Imaginez la personne qui a mal au ventre depuis 2 ou 3 jours. Il vient dans la salle d'attente et qui attend 2 heures, en ayant mal au ventre. Est-ce que vous croyez que même si elle est bien reçue, elle a bien noté le médecin?
Dans le cas de mon médecin et maintenant de ce Jérôme Marty, je trouve ce procédé révoltant et dangereux. Mais maintenant, je me souviens, et vous aussi sûrement, que je regarde souvent les notes et les avis avant de consulter un spécialiste, de prendre un rendez-vous sur Doctolib et évidemment, de réserver un hôtel. C'est pratique les notes, ça donne au moins des indications, une tendance. Quand j'achète un produit en ligne ou que je réserve un Airbnb, je regarde les notes. Je trouve ça plutôt fiable, et après tout, ce sont des vraies personnes qui notent. Par exemple, un chauffeur Uber ponctuel et sympathique, il doit toujours avoir des bonnes notes. Pour en avoir le cœur net, j'appelle Nordine. C'est un chauffeur que je connais bien. Et alors, le système des étoiles, pour toi, c'est un bon système ?
Ben pour moi, il a plus de points positifs que de points négatifs. Plus t'es bien noté, plus t'es bien vu, plus les gens ont plus de confiance avec toi. Après, le seul problème, c'est que quand tu tombes sur quelqu'un qui est de mauvaise humeur, par exemple, et il y a un petit clash qui se crée ou quoi, bah, direct, tu prends un coup au niveau des notes. Mais bon, je pense que c'est plus une bonne chose qu'une mauvaise.
Toi, tu as des bonnes notes, Nordine ?
Je pense que le fait d'être noté, ça peut plus rassurer certains clients, tu vois. Parce que j'ai déjà eu plusieurs clients qui me disent « Oui, vous avez des bonnes notes quand même. » Et ça fait plaisir d'entendre ça, la bouche d'un client. Ça le rassure dans le sens où quoi, il se dit « Ouais, c'est un bon chauffeur, il n'est pas là pour... » Parce que je pense qu'au bout de plusieurs mauvaises notes, je pense que certains clients refusent même la course.
Saya Baroun, qui est chauffeur et responsable du syndicat des VTC, trouve par contre que c'est assez dangereux. Parce qu'au bout d'un certain nombre de mauvaises notes, ce ne sont pas seulement les clients qui refusent le chauffeur. C'est l'algorithme qui le déconnecte, donc concrètement, le vire, pour au minimum 48 heures. Comme une punition.
On va dire que les plateformes font des attaques aléatoires tous les trimestres. Ils font un peu une sorte de ratissage au niveau des notes et ils menacent un peu le type, genre là, si vous augmentez pas vos notes, on va vous déglinguer, on va vous déconnecter, machin. Fut un temps, ils vous envoyaient beaucoup de menaces régulièrement par rapport à votre note. Fut un temps aussi, là je pense qu'ils ont arrêté ça, ils vous proposaient un centre de formation dans le 95 qui va vous réapprendre votre métier, espèce de demeuré quoi en gros. Mauvais chauffeur, tes notes sont pas bien, va réapprendre ton métier.
Pour récupérer des notes,
pour récupérer une meilleure note. Une moyenne de notes assez élevée. Ça, je crois qu'ils le font plus trop en ce moment, le stage, le fameux stage pour les points. Fut un temps, on voyait beaucoup de chauffeurs dire je mets une étoile systématiquement à tous les clients qui montent.
Pourquoi bon, voulaient mettre un à tous les clients qui montent?
Non, c'était pendant les vieilles manifs et tout ça, il y avait pas mal d'élan.
Pour lutter contre le système des notes.
Pour lutter un peu contre le système des notes, mais bon, tout le monde s'est fait démolir par l'algorithme. Aujourd'hui, c'est l'algorithme qui décide.
Au bout d'un certain nombre de déconnexions, c'est-à-dire de mauvaises notes, les chauffeurs sont définitivement virés. Pour les livreurs Uber Eats et Deliveroo, j'ai l'impression que c'est un peu pareil.
Donc là,
ça n'arrête pas de biper.
C'est que j'ai pas encore accepté la course, là, je l'ai accepté. J'ai la distance où je suis du restaurant, je suis à 1,38 km.
Quand je l'ai rencontré avec son masque, je n'avais pas réalisé qu'Anthony était aussi jeune. Il a tout juste 22 ans, il livre en scooter à Paris depuis 4 ans, et pour les notes, il est plutôt stratège.
Là, c'est sur Uber, et on peut voir que ma note, elle est de 97% de satisfaction.
Excellent service, 97%, il y a un pouce levé vers le ciel.
C'est ça.
Bon, ça va, les gens sont contents de ton service. Oh. T'es noté par qui? T'es noté par
le client et les restaurateurs, les deux peuvent nous noter. Et après, la dernière fois, je me suis mangé 3 pouces vers le bas parce que c'était 2 commandes endommagées. Je l'avais vu, c'est des commandes McDo, ça arrive souvent. Et en fait, c'est même pas de notre faute généralement, c'est juste la préparation. Vu qu'ils sont speed chez eux, des fois, ils ne mettent pas le scotch, il y a des problèmes. En fait, la boisson McDo, elle n'est pas faite pour la livraison, en fait. Et comme c'est du carton, ça a tendance à se ramollir. Le temps qu'on arrive, qu'on attende encore 5-10 minutes, qu'on nous donne la commande, le carton est déjà bien ramolli, qui fait que on est dans Paris, les pavés, les trous, il y en a. Et si on ne fait pas attention, un trou, hop, et toute la commande est endommagée. Avant même d'être arrivé chez le client, dès que j'ai retiré la commande de mon sac, ben j'ai vu que ça commençait déjà à couler parce que moi je contrôle avant de donner au client si c'est humide en dessous et comme ça je sais déjà et je lui prépare déjà le client à savoir m'exprimer et lui dire qu'est-ce qu'il faut faire.
Tu lui dis étapes. je suis désolé, ça a coulé,
voici les étapes à suivre, contactez Uber et vous pouvez avoir potentiellement un remboursement, en fait un remboursement partiel selon l'état de la commande.
Le client du coup il t'a dit quoi?
Ils sont habitués. Ils sont habitués. Il y a certains, ils râlent réellement, mais ils sont habitués. Ils savent que commander McDo, c'est un risque, en fait.
Mais Anthony, du coup, est-ce que ce client t'a mis une mauvaise note?
Oui, il m'a mis une mauvaise note parce que s'il veut se faire rembourser, entre guillemets, l'étape pour se rembourser, c'est un pouce vers le bas, commande endommagée. Commande endommagée, c'est nous qui sommes responsables, en fait.
À ce moment-là, tu vas te prendre une mauvaise note?
Une mauvaise note, trois notes négatives. C'est une suspension potentielle.
Alors suspendu, ça veut dire déconnecté en fait.
Déconnecté, c'est ça. C'est juste qu'il faut que je fasse attention, sinon pendant une semaine ou deux, je refuse tous les McDo, comme ça je sais que ma note elle va remonter en faisant que des sushis ou autre. En temps normal, un livreur là, je reste pas derrière la voiture, je couche, je passe, j'accélère. Oh là, attention, il y a des trous.
Il y a un petit dodan, hop là.
Nicolas, c'est une autre histoire. Il est cadre dans une entreprise d'assurance au Mans. Il a 37 ans et deux enfants. Mais tous les soirs après le travail, pour compléter son salaire, il livre à vélo.
On est un peu quand même sur un siège éjectable. On dépend un peu de l'humeur ou de la susceptibilité des clients, voire des restaurateurs. Donc par exemple, un restaurateur qui va être débordé et qui va nous faire attendre 20 à 30 minutes pour préparer la commande. Clairement, nous, en tant que livreur, on n'y est pour rien. Et pour autant, au final, on a quand même un certain nombre de clients qui vont mettre un pouce vers le bas pour ce seul motif. Donc en fait, voilà, rapidement, chaque jour, quand vous vous reconnectez sur l'application, vous voyez tomber des pouces négatifs et pour lesquels vous n'avez pas vraiment une explication. Et donc, le fait le plus marquant, moi, sur système de notation chez Uber Eats, ça a été pendant le premier confinement, puisque pour des raisons sanitaires, comme vous imaginez, on nous a demandé de privilégier le fait de ne pas monter dans les immeubles pour éviter de toucher toutes les zones de contact, les digicodes, les boutons de lumière, les ascenseurs, etc. Les clients en avaient été informés également de leur côté. Et voilà, moi, je sais que pendant cette période-là, j'ai eu une déferlante de pouces vers le bas et je soupçonne clairement que ce soit uniquement pour ce motif, puisque les échanges étaient parfois un peu conflictuels avec les clients lorsque je les appelais pour leur demander de me rejoindre en bas. C'est une situation qui passait mal de leur côté. Donc très rapidement, moi j'ai vu mon taux de satisfaction dégringoler au point d'être, entre guillemets, dans la zone rouge. Donc j'ai pris contact avec le support, mais bon, on a des réponses type qui ne prennent pas en considération vraiment la problématique. Il y a un côté vraiment addictif, mais dans le sens négatif du terme, hein, c'est que parfois on se retrouve à consulter l'application plusieurs fois par jour, même lorsqu'on travaille pas, en se disant qu'est-ce que ça donne, est-ce qu'il n'y a pas eu de côté de pouce vers le bas ou autre. Ce système de notation derrière, on a tous en tête l'épée de Damoclès. Moi concrètement, j'ai eu peur de perdre mon compte et donc j'ai arrêté à ce moment-là. J'ai arrêté totalement de me connecter et j'ai arrêté la livraison quelques semaines pour justement ne pas prendre le risque d'avoir mon compte suspendu. Une fois que vous vous rendez compte que vous avez des pouces vers le bas qui impactent votre notation, eh bien, on est un petit peu dans une position où on va quémander à chaque livraison. Moi, c'est ce que je faisais. Lorsqu'une livraison se passait, d'après moi, dans des bonnes conditions au niveau de la rapidité, je demandais au client s'il avait la gentillesse de bien vouloir. Je l'incitais du moins à avoir la gentillesse de mettre un pouce vers le haut pour m'encourager. Et c'est vrai que en ayant ce discours, en le faisant à chaque fois, j'ai réussi à remonter dans les notations.
Je me demande si un jour mon médecin sera rayé de l'ordre des médecins s'il a de trop mauvaises notes ou de commentaires négatifs comme ses livreurs. D'ailleurs, figurez-vous que nous aussi, les passagers, nous sommes notés par Uber. Il suffit de regarder sur l'application. Personnellement, j'ai 4,76 sur 5. C'est plus que Sonia, qui n'a que 4,09, et plus qu'Adrien, mon co-auteur, qui a un minable 3,5. Ça nous a fait rire, mais on rigolera moins quand un chauffeur refusera de venir le chercher à 3h du matin dans un coin paumé. Parce que c'est ça ce qui se passe. Les chauffeurs peuvent aussi choisir leurs clients. Chez Vinted, une plateforme de vente de vêtements sur laquelle j'achète et vends de temps en temps, j'ai aussi 5 sur 5. Il y a aussi Blablacar, j'y suis pas. Allo Voisin pour du dépannage entre voisins, mais j'y suis pas non plus. Ou encore Babysitter. Je découvre en poursuivant mes recherches qu'il existe un autre système de notation moins public, mais encore plus pervers. Ça s'appelle le NPS, le Net Promoter Score. C'est un barème que toutes les entreprises utilisent quand elles envoient des questionnaires de satisfaction.
Oui, Vincent, c'est nous.
Oui.
Deux journalistes de Libération ont écrit « La nouvelle guerre des étoiles ». C'est un livre qui explique bien comment ça marche. L'un d'entre eux, Vincent Caucase, m'a raconté.
En gros, quand vous recevez un SMS ou un mail qui vous demande de noter sur 10 une entreprise, c'est quasiment toujours la même question, c'est « Est-ce que vous recommanderiez cette entreprise, Carrefour, Darty, la Fnac, n'importe quoi, à vos proches ?» C'est toujours la même question. Bah, cette question, c'est un système qui s'appelle le NPS, qui a été conçu par un grand cabinet de conseil en stratégie qui s'appelle Bain aux États-Unis et qui a été importé tel quel par toutes les boîtes, qui en gros vous promet de prédire la croissance de votre entreprise en fonction de la réponse à cette question. Et là, le barème, c'est il n'y a que 9 et 10 qui sont des bonnes notes. 8 et 7 sont des notes neutres et de 0 à 6, c'est la même note, c'est comme si on mettait 0. Donc quand vous mettez 6 sur 10 à ces questionnaires, il faut avoir en tête que c'est exactement comme si on mettait 0 sur 10. Pour un Français, mettre 6 sur 10 et mettre 0 sur 10, c'est pas du tout la même chose. C'est 12 sur 20 ou 0 sur 20. Et pour autant, eux, dans leur système, c'est agrégé exactement de la même manière. L'autre domaine où la note va être très très importante, on a découvert, c'est pour les concessionnaires automobiles. Donc par exemple, on a découvert que chez Citroën, à partir du moment où un client mettait 6 ou 7 sur 10, encore une fois, 7 sur 10, moi ça me paraît pas être une très mauvaise note, c'est 14 sur 20, il déclenchait, il y avait en interne une haute alerte.
Une haute alerte.
Ouais, ils appellent ça une haute alerte, donc une alerte chaude. Les managers sont prévenus immédiatement. On rappelle le client pour qu'il change sa note. Et donc nous, on a un témoignage d'un monsieur qu'on a appelé 3, 4, 5 fois. Lui, il parle même de harcèlement. Où Citroën le rappelait en permanence pour qu'il change sa note en lui proposant des contreparties. Et là, ça montre bien que le but de cette note, du coup, c'est pas de mesurer objectivement la qualité d'un service pour qu'il progresse. Le but de cette note, c'est simplement de situer les différents centres Citroën les uns par rapport aux autres, et donc ils ont des objectifs, et de mettre la pression sur tous les chaînons. C'est-à-dire que le salarié qui est en contact avec le client, bah, on va lui reprocher cette mauvaise note, mais ça va être répercuté sur le manager au-dessus. Et là, dans certains cas, ça remonte jusqu'au manager de toute la région sud-ouest Citroën, ce qui représente des dizaines, des centaines, des milliers de centres Citroën. Tout ça pour un 7 sur 10 mis par un client.
Ça me rappelle tout d'un coup mes démêlés sans fin avec EDF qui me surfacture depuis un an et demi. À la fin des conversations plutôt vives que j'ai avec les divers conseillers, on me demande souvent de les noter. J'imagine que c'est pour améliorer le service. Mais en réalité, d'après Anousson Hume, ce n'est pas seulement ça. Anousson, c'est son vrai nom, est téléconseiller pour une plateforme et lanceur d'alerte. Il explique que la note donnée par les usagers aux téléconseillers est déterminante pour obtenir leur prime, qui représente pour lui jusqu'à un tiers du salaire.
Donc vous avez quand même à peu près entre 200 et 300 euros bruts par mois qui sont uniquement effectivement assujettis au pourcentage de retour positif des abonnés. Ça peut même aller jusqu'à une sanction disciplinaire parce qu'on considère que vous n'êtes pas aux attendus des standards de l'entreprise. Quand vous avez ce genre d'erreur, ça peut être une erreur qui peut être minime et qui peut s'améliorer dans le temps, mais eux considèrent que c'est une erreur qui est tellement grave que l'échelle des sanctions fait qu'on n'est pas sur un simple avertissement, sur un blâme, et ça peut aller jusqu'à ce qu'on appelle le licenciement pour faute grave, ce qui veut dire que la faute, elle est tellement grave qu'on se sépare de vous, et parfois ça veut dire aussi qu'on estime que vous n'avez pas les indemnités de licenciement.
Je crois que dans certaines entreprises, les résultats sont affichés carrément dans les bureaux.
Quand j'appartenais au groupe Free, le groupe Iliad, effectivement, les managers avaient pour consigne que lorsque les statistiques, donc les pourcentages de retour abonnés par conseiller étaient consolidés, on les affichait sur les murs de l'entreprise. Donc vu que c'est des open space, tout le monde peut le voir. Et il y avait aussi ce système dégradant qui est le système de couleurs, qui veut dire que voilà, ce qu'on appelle les top, middle et last, donc les last derniers, on vous mettait bien en rouge pour vous dire voilà, vous êtes les mauvais petits canards. Ce système a dû s'arrêter parce que nous avons fait venir l'inspection du travail qui elle-même a dit qu'effectivement c'est disproportionné par rapport au but recherché, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, entre guillemets, sous le motif de la performance à tout craint, humilier les personnes parce qu'elles seraient mauvaises à un moment donné. C'est quelque chose qui est disproportionné et surtout qui est une atteinte à la santé mentale, clairement. Par contre, dans mon groupe où je suis actuellement, le groupe Comdata, le groupe de sous-traitants, lui, effectivement, utilise encore ça. Je l'ai vu dans d'autres entités, hormis la mienne, où vous avez encore, vous savez, les fameux écrans, comme les écrans d'attente pour l'aéroport ou la SNCF, vous avez le nombre d'appels en attente et vous avez la performance en temps réel. Donc, c'est des facteurs de stress importants. On vous dit, allez, dépêchez-vous, vous prenez des appels, il y a des gens qui sont en attente. Et aussi, à côté, vous avez ces systèmes, effectivement, ces fameux systèmes d'affichage, de notation qui sont encore faits. C'est une pratique qui existe encore, malheureusement.
Après ma rencontre avec ce téléconseiller, je me dis que je vais donc arrêter de mettre des notes, tout simplement, et faire bien attention de ne pas laisser de commentaires non plus. Mais Anousson me met en garde. Désormais, les téléconseillers sont aussi jugés en fonction du nombre de notes qu'ils obtiennent. Si j'arrête de noter, certains de mes interlocuteurs, comme les chauffeurs et les livreurs, seront pénalisés. Il me reste donc à mettre des bonnes notes à tout le monde, le plus souvent possible. Si je veux, je peux même acheter des avis positifs à mon médecin. Il existe des sites internet qui en vendent par lot, des avis positifs. Le problème, c'est que c'est illégal, et c'est cher. 19 euros par avis, 190 euros le lot de 10 avis.
Est-ce que vous contacteriez un chauffagiste, un cabinet d'avocat ou n'importe quel autre professionnel s'il avait de mauvais avis sur Google ?
Sinon, dernière option, il y a les tutos qui expliquent comment avoir des bonnes notes.
Sans avis client ou pire avec de mauvais avis, vous risquez de perdre les opportunités des gens qui vous recherchent sur Google. Si vous ne prenez pas les devants en recueillant les avis des clients satisfaits, seuls les clients insatisfaits iront vous poster un avis. Pendant ce temps-là, vos concurrents vont prendre les devants.
Une autre façon de contourner le système de notes consiste à le ridiculiser. C'est le journaliste anglais de Vice qui s'en est chargé.
Sorry, this is not my first ruse, though.
En 2017, Uba Butler a créé sur le net le profil d'un restaurant qu'il a appelé la cabane de Delwish et qu'il a inscrit sur le site TripAdvisor, spécialisé dans la notation des hôtels et des restaurants. Au départ, le faux restaurant a commencé classé à la 18149e position sur TripAdvisor. Mais grâce à des avis élogieux postés par de nombreux amis du journaliste, la cabane inexistante est peu à peu remontée dans le classement. Les demandes de réservation ont afflué et le faux restaurant n'a cessé de grimper. Le 1er novembre 2017, il a pris la première place des meilleurs restaurants londoniens.
It's number one.
Il est numéro 1. Parmi les 18 000 restaurants à Londres, il est mieux coté que n'importe lequel des étoilés Michelin. Et il n'existe même pas.
Uba Butler a ensuite lancé la deuxième phase de son plan, l'ouverture du restaurant. Au menu, 30 euros de plats surgelés. Côté salle, il installe quelques tables et chaises de fortune dans son jardin et appelle des amis pour faire son staff, une serveuse, un chef cuistot et un DJ. Et tout le monde se précipite.
Nous avons un délicieux minestrone composé d'eau bouillante et de soupe instantanée. Est-ce que la nourriture vous plaît ?
C'est extraordinaire. J'ai très hâte de voir la suite.
Et certains clients, enchantés par cette soirée passée à manger des plats surgelés dans le meilleur restaurant londonien, demande même une nouvelle réservation pour revenir le plus rapidement possible. Avec ces histoires, je comprends deux choses. D'abord qu'il ne faut pas se fier aux plateformes ni aux algorithmes, et ensuite que le snobisme n'a vraiment pas de limite. Parfois, j'imagine à quoi ressemblerait une journée, à quoi ressemblerait ma vie si je devais noter toutes les personnes que je croise et si elles me notaient aussi. Après tout, depuis l'école primaire, on est classé selon des notes. Et tout le monde accepte ça. Les parents sont rivés sur Pronote et informés en temps réel des résultats de leurs enfants. Évidemment, la différence, c'est que les gens qui notent sont censés être compétents, impartiaux et formés à ça. N'empêche que les Finlandais, eux, ont décidé de changer les mentalités dès l'école primaire. Dans leur système scolaire, le zéro n'existe pas. Quoi que fasse l'élève, il aura au moins 4, et le 8 est considéré comme une bonne note. En plus, les écoliers et collégiens ne sont pas notés très régulièrement, et on ne rend pas toujours la note publique. Le petit Finlandais grandit avec confiance en lui et ne prend pas la mauvaise habitude de tout évaluer tout le temps. Dans le livre de Vincent Cocaz et Ismaël Alissat, Le célèbre auteur de science-fiction Alain Damasio propose une solution encore moins hypocrite pour sortir de tout ça, le sabotage pur et simple des systèmes de notation. Et pour y parvenir, Alain Damasio imagine un parc de machines zombies, des ordinateurs programmés, dans le seul but de répondre massivement aux enquêtes d'opinion, de façon aléatoire, pour tout fausser. Pas facile à réaliser, mais radical. C'est pour ma part la solution qui me convient le mieux. Je m'en vais de ce pas m'en occuper.
On va à gauche là et on se retrouve un peu plus haut à gauche.
D'accord.
C'est juste la rue là.
Sous le joug des étoiles, un reportage d'Anna Elverzo, écrit avec Adrien Morat, réalisé par Cécile Lafont avec un coup de main de Jean-Christophe Francis. Merci à Vincent Caucase, Ismaël Alissa, auteur de La Nouvelle Guerre des Étoiles, à Camille Revel, à Justine Piluso, à Nordine Anthony, Nicolas Saya, Baharoun et à Nous Sommes Hume. L'attaché de production des Pieds sur Terre, c'est Céline Paris, notre stagiaire, c'est Rita Ruggirello, et cette émission a été diffusé pour la première fois en février 2021. À écouter donc ou à réécouter.